Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Jokowi a dirigé la réunion limitée du développement sur les centrales électriques aux déchets. Le nouveau bureau sur une île vide pourra être une solution du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés concernant les réfugiés. Le ministre Luhut promeut Java comme la meilleure île parmi des dizaines d'étudiants internationaux. Luhut dit l'abrasion de Riau n'affecte pas les frontières régionales avec la Malaisie. Le festival de Bunaken encourage l'augmentation du nombre de visites touristiques dans le nord de Sulawesi. Kadin espère que les investissements entrants seront orientés vers l'exportation et à forte intensité de main-d'œuvre. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le président Joko Widodo a dirigé la réunion limitée sur la construction d'une centrale électrique aux déchets mardi au bureau du président à Jakarta. Il a souligné l'importance de la gestion des déchets. Lors de l'ouverture de la réunion qui a été assistée par des responsables régionaux, le président a rappelé que la construction de la centrale électrique aux déchets ne visait pas à augmenter la disponibilité en électricité du pays, mais à surmonter le problème des déchets dans ce pays. Le président a également rappelé à son personnel les questions relatives aux déchets marins qui sont également le problème mondial. L'Indonésie est le 10e plus grand pays au monde à produire des déchets plastiques dans l'océan.
Ini bukan urusan listriknya. Yang mau kita selesaikan urusan sampahnya.
Ce n'est pas la question de l'électricité. Nous voulons résoudre le problème des déchets. Nous ne pouvons pas encore résoudre le problème des déchets sur la Terre. Et nous devons aussi résoudre le problème des déchets marins. C'est aussi un problème du monde. Et nous sommes le 2e plus grand pays au monde à produire des déchets plastiques. Le président Joko Widodo a signé un règlement présidentiel numéro 35 de 2018, le 12 avril 2018, relatif à l'accélération de la construction d'installations de traitement de déchets en énergie électrique à base de technologies vertes. La construction de la centrale électrique aux déchets peut également de réduire le volume des déchets significativement. Par conséquent, le gouvernement estime la nécessité d'accélérer la construction d'installations de traitement de déchets en énergie électrique à base de technologies vertes dans certaines provinces et villes. 12 villes ont été sélectionnées pour la construction initiale d'installations de traitement de déchets en énergie électrique respectueuse de l'environnement, à savoir la province de DKI Jakarta, de Tangerang du Sud, de Bekasi, de Semarang, de Surakarta, de Surabaya, de Makassar, Denpasar City, de Palembang et de Manado. Le professeur de droit international à l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, a déclaré mardi à Jakarta que le gouvernement central pourrait trouver une île vide pour le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en tant que nouveau bureau chargé de l'administration des futurs réfugiés. Selon lui, le processus de sélection et de vérification de l'acceptation des futurs réfugiés prend beaucoup de temps, peut-être de mois ou des années. Hikmahanto a déclaré qu'actuellement, le troisième pays qui accepte les demandes d'asile des réfugiés, comme l'Australie, le pays européen et les États-Unis, a sévèrement limité le nombre de demandeurs d'asile. bien que la politique de limitation de l'acceptation des demandeurs d'asile soit un droit de ces pays, mais ce problème provoque l'augmentation du nombre de réfugiés et grève le gouvernement indonésien. Et l'Indonésie n'est pas un pays signataire de la Convention de Vienne de 1951 sur les réfugiés. Il n'est pas obligatoire de prendre soin d'eux, sauf au nom de l'humanité. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a expliqué la grandeur de l'île de Java, qui a remporté le titre de meilleure île du monde en 2018, à des dizaines d'étudiants internationaux participant au concours d'innovation des jeunes sur la gouvernance mondiale 2019. C'est ce qu'a affirmé Luhut Binsar Panjaitan lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée sur l'Université d'Indonésie à Depok récemment. Selon le ministre Luhut, il n'est pas surprenant que Java soit la meilleure île du monde, car elle compte de nombreuses destinations touristiques incroyables, par exemple le mont Bromo et le temple Borobudur, qui sont actuellement les destinations prioritaires. Sur l'île de Java, il reste encore de belles forêts dans la région de Banyuwangi qui sont à présent une attraction touristique excellente. Par conséquent, le gouvernement indonésien augmente le développement d'autres destinations touristiques pour devenir le nouveau Bali. Les quatre destinations prioritaires qui seront développées immédiatement sont le lac Toba, le temple Borobudur, Mandalika et Labuan Bajo. Le ministre de la Coordination Maritime Luhut Binsar Panjaitan a déclaré mardi à Jakarta que l'abrasion survenue dans plusieurs îles de la province de Riau n'avait pas affecté la zone frontalière avec la Malaisie. Il a tenu une réunion de coordination dans son bureau mardi pour accélérer la récupération des zones côtières et marines sur les îles de la province de Riau qui bordent la Malaisie. Le gouvernement cherchera une solution au problème de l'abrasion. L'une des tâches à faire consiste à modifier les règles qui ne sont plus pertinentes par rapport aux conditions actuelles. Quatre îles de Riau ont subi un grave abrasion, à savoir l'île de Bengkalis, l'île de Batu Mandi, Urokan Hilir, l'île de Rupat, Bengkalis, et l'île de Rangsang. L'abrasion sur les quatre îles périphériques a provoqué la perte de certaines parties du territoire, menaçant le changement de frontières nationales. Les quatre îles sont directement adjacentes à la Malaisie et à Singapour. Le gouverneur de Sulawesi du Nord, Oli Dondo Kambei, est optimiste que le festival de Bunaken, qui se tiendra dans la ville de Manado du 17 au 20 juillet 2019, encouragera le nombre de visites touristiques à cette province. Le gouverneur Oli à Manado a déclaré mardi que les activités touristiques étaient de classe internationale. Le ministère indonésien du tourisme a choisi de faire partie des 5 merveilles de l'événement 2019. Certaines activités qui seront réalisées lors du festival sont entre autres festival de la nourriture, les jeux, les spectacles musicaux, Lifeboard Bunaken Sail Trip, photographie sous-marine et des triathlons. Il a révélé que le festival de Bunaken sera animé également de compétitions de pêche et un nettoyage de la côte ou sous-marin. La Chambre de commerce et d'industrie, ou Kadin, d'Indonésie, espère que les investissements qui entrent en Indonésie sont des investissements axés sur les exportations et à forte intensité de main-d'œuvre. C'est ce qu'a affirmé le président de Kadin, Rosan Prakasa Ruslani, mardi à Jakarta. Il a expliqué que l'investissement souhaité est la création d'emplois, compte tenu le travail principal à faire est de savoir comment créer des emplois. Les investissements doivent être augmentés autant que possible, car ils contribuent à la croissance économique de l'Indonésie, de 33% à 35%. Il encourage également toutes les parties prenantes à faire des réformes dans tous les domaines afin de ne pas être laissés pour compte dans la recherche d'opportunités d'investissement, compte tenu d'autres pays continuent à faire les réformes en termes de licences, de coordination et de fiscalité. C'est tous les journaux d'aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter Voice of Indonesia. Et voici le commentaire. Les nouvelles étapes de la diplomatie nucléaire et leur impact. L'Iran utilise la question nucléaire dans le but de réduire la pression et la sanction imposées par les États-Unis. Téhéran a menacé de réactiver son programme nucléaire avant l'accord de 2015 sur le nucléaire. L'Agence iranienne de l'énergie atomique a déclaré qu'elle réactiverait les programmes nucléaires si les États-Unis et leurs alliés étaient incapables de trouver un moyen de réduire les pressions et les sanctions imposées par les États-Unis. Un porte-parole de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, diffusé par l'Agence de presse officielle iranienne IRNA, a exprimé cette attitude dans l'espoir d'encourager les efforts diplomatiques. Téhéran estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures diplomatiques pour surmonter les tensions, notamment dans les relations avec les États-Unis, afin d'éviter les sanctions économiques. Comme on le sait, après l'année dernière, le président Donald Trump a déclaré sa sortie de l'accord nucléaire de 2015. Washington a imposé des sanctions plus sévères à l'Iran. Si la menace de l'agence atomique iranienne se concrétise, le pays produira progressivement une énergie nucléaire dépassant le minimum convenu il y a 4 ans, soit plus de 300 kg de ses réserves d'uranium. La menace de l'Iran de produire à nouveau le nucléaire, comme elle avait fait avant l'accord il y a 4 ans, après qu'il y a la déclaration de Pékin qui condamnait la politique de Washington. Dans sa déclaration diplomatique à Beijing, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Kun Shuan, a accusé les États-Unis d'être la cause de la menace iranienne. Aux journalistes à Beijing, le 8 juillet, Kun Shuan a déclaré que la crise nucléaire iranienne avait été provoquée par les pressions des États-Unis. Bien que Pékin critique les États-Unis, Pékin regrette également la décision de Téhéran de revenir à la production nucléaire avec l'accord de 2015. La Chine est l'un des pays qui a signé l'accord sur le nucléaire signé sous l'administration de Barack Obama. La déclaration de l'Iran de ne plus se conformer à l'accord de 2015 a également été abordée par le pays européen. Les ministres des Affaires étrangères des pays européens ont spécifiquement discuté la crise de l'accord nucléaire iranien lors de leur réunion à Bruxelles le 15 juillet. La déclaration du gouvernement chinois et la réaction des pays européens montrent que la décision de Téhéran de jouer la question nucléaire pour ouvrir la voie diplomatique a une influence considérable. Bien que les États-Unis n'aient pas montré d'attitude face à ce dernier développement. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le 17 juillet 2006, le séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter dans la mer au sud de Java. Le 17 juillet 2006, le séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter dans la mer au sud de Java et a fait le tsunami qui provoque au moins 668 morts. Le tsunami a frappé le village de la côte sud de Java à Cipatuju, Tasikmalaya et Pangandaran. Selon le porte-parole du ministère indonésien de la Santé, environ 450 personnes ont été blessées et 52 700 personnes ont perdu leur maison. 140 personnes ont été portées disparues. L'autre information est sur le 17 juillet 2000, Bachar el-Assad devient le président syrien. Bachar el-Assad devient le président syrien, remplace le président Hafez al-Assad comme son père, qui est mort le 10 juin 2000 après au pouvoir pendant 30 ans. Après la mort de Hafez el-Assad, le parlement de la Syrie a fixé l'âge minimum pour le président, n'est plus 40 ans, mais 34 ans. Nous finissons le soir aujourd'hui avec l'événement Les attentats à la bombe dans les hôtels JW Marriott et Ritz-Carlton à Jakarta le 17 juillet 2009. L'explosion de la bombe dans les hôtels JW Marriott et Ritz-Carlton dans le quartier Megakuningan au sud de Jakarta s'est produite de 7h47 à 7h57 heure locale. L'attentat suscite à tuer 9 personnes et blessé plus de 50 personnes, indonésiens, étrangers de Nouvelle-Zélande, d'Australie et des Pays-Bas. Cet incident a eu lieu 9 jours après l'élection du président et du vice-président d'Indonésie et 2 jours avant l'arrivée prévue de l'équipe de football de Manchester United à l'hôtel Ritz-Carlton qui disputera un match contre l'équipe indonésienne All-Star le 20 juillet 2009. La police a réussi à arrêter ou à tirer sur des suspects d'autres attentats à la bombe, même s'il existe encore un certain nombre d'acteurs en fuite. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kau sebagai
la chanson intitulée « Indonesiaku » qui signifie « Mon Indonésie » chantée par Lila. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur l'onde courte de 3,3 de 5 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers amis, c'est temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « Les membres de l'ASEAN promouvent ensemble le tourisme ». Le 10 pays de l'ASEAN, membres de l'Organisation nationale de tourisme de l'ASEAN ou ASEAN ENTOS, ont convenu de mettre en œuvre 6 stratégies communes de promotion du tourisme. L'accord a été conclu lors de la 50e réunion de l'ASEAN ENTOS qui s'est tenue à Siem Reap au Cambodge la semaine dernière. Le communiqué de presse du Bureau de la communication publique du ministère indonésien du tourisme a mentionné dimanche dernier que l'Organisation nationale du tourisme de l'ASEAN avait convenu 6 stratégies de marketing touristique communes afin de progresser le tourisme dans la zone de l'Asie du Sud-Est comme destination unique de l'ASEAN. L'accord de stratégie de marketing touristique commune s'est reflété dans les projets de la stratégie de marketing touristique de l'ASEAN, ATMS, en 2019. Ce projet a été discuté lors du forum du 6e groupe de travail sur les partenariats de marketing touristique de l'ASEAN, ATMPWG, présidé par Alex M. Makatuno des Philippines en tant que chef des délégués de l'Organisation nationale du tourisme de l'ASEAN, de 10 pays de l'ASEAN. Dans les projets ATMS en 2019, 10 pays de l'ASEAN ont décidé de mener des campagnes de marketing intégrées avec des partenaires et dans des médias en ligne ou sociaux influents. La campagne de voyage d'influence utilise le slogan « When in Southeast Asia » ou « Hashtag When in Sea Asia ». Pour réussir la campagne, chaque pays membre de l'ASEAN propose une province pour 2 options d'activités influentes. Les critères pour la province proposée sont proches de la liaison principale qui est environ 2 à 3 heures en voiture ou en avion, des installations hôtelières étoiles et des attractions touristiques. La délégation indonésienne dirigée par le personnel expert en économie et responsable du tourisme du ministère du tourisme, Anang Sutono, a proposé la province des îles Riau. Cette proposition considère que les îles Riau remplissent les critères définis. Dans le projet ATMS en 2019, on a également convenu d'utiliser le site web de Revam. Il est prévu que ce média en ligne utilise un nouveau design alors que le nom proposé est siasia.travel ou visite siasia.travel. La création des plateformes numériques de tourisme de l'ASEAN est également proposée. La série d'activités de 50e de l'Organisation nationale du tourisme de l'ASEAN, en plus de la tenue d'une réunion du 6e groupe de travail sur le partenariat pour le marketing touristique de l'ASEAN, ainsi que la tenue avec des pays partenaires de l'ASEAN, à savoir le Japon, la Corée du Sud, la Chine, au plus 3, l'Inde et la Russie. Secrétaire, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Aya Anjani intitulée Juwita. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, secrétaire. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter la colline Wairinding. Il n'y aura pas de fin au mot pour parcourir toujours un endroit magnifique qui n'est jamais imaginé dans nos esprits. À l'est de l'Indonésie, il y a des fragments de paradis qui ne sont pas connus des touristes étrangers et nationaux. La colline de Wairinding, qui est réputée pour donner la chair de poule à tous ceux et rendre grâce qui la voient, présente un état naturel parfait. La terre de Sumba, qui est remplie de collines calcaires avec son beau savane assez exotique. La colline Wairinding est le lieu idéal pour les visiteurs désirant profiter du silence et de la beauté qui sont encore très naturels. Les touristes ont commencé à visiter cette colline depuis qu'elle est devenue l'un des lieux de tournage réalisé par Mira Lesmana, intitulé Le Swordsman Bâton d'Or. Cet endroit a un très beau paysage de colline. Situé dans le village de Pambota Jara, le district de Pandawai, où à environ 30 minutes en voiture du centre de Sumba Oriental, cette colline a l'air incroyable avec sa vaste végétation de prairies. L'état de la route vers l'emplacement de Wairinding est très bon. L'asphalte est lisse, même si la route est sinueuse. Vous passerez la route Trans-Sumba Waingapu-Waikabubak, connue sous le nom de lettre S, en raison de sa topographie sinueuse. Environ 30 à 45 minutes de temps de conduite, vous arriverez à l'emplacement. Ensuite, il vous reste à marcher à escalader la colline qui se trouve derrière l'étal d'environ 500 mètres. Il n'y a pas de prélèvement officiel sur les billets d'entrée à Wairinding, mais il est conseillé à chaque invité qui vient de remplir son livre d'or et de ne donner que de l'argent pour le bien-être de la communauté locale. Il n'y a aucune installation complémentaire autour de l'emplacement. Il n'y a qu'un petit magasin à la périphérie, mais ce n'est pas complet. Il est recommandé aux visiteurs qui souhaitent visiter ici d'apporter de la nourriture, en particulier des boissons, car il fait très chaud pendant la journée à l'est de Sumba. C'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Tolong jauhkan nafsuku dari pesona awamu. Aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit. Membiru indraku, susah payahku melepasmu. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku. Ranjang ternyaman bagiku, henti bergumam hati, cabutlah biar tak kusut. Membiru indraku, susah payahku melepasmu. Terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku, tanpa eratmu menggenggamku, tanpa rahmu lagi.
Voilà la chanson de 420, intitulée Kusut, en français, en malais. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Le sujet d'aujourd'hui est obat flu. Je répète, obat flu, qui signifie un médicament contre le rhume. Je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée obat flu, ou en français un médicament contre le rhume. À la pharmacie, Joko achète des médicaments. Et voici la conversation entre Joko et apothécaire, ou en français le pharmacien.
Ada obat flu?
Ada. Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Untuk orang dewasa.
Perlu vitamin juga?
Enggak deh, makasih.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, obat flu, ou en français, un médicament contre le rhume. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Obat, obat, qui signifie le médicament. Ada obat flu, ada obat flu, qui signifie y a-t-il un médicament contre le rhume untuk anak-anak atau orang dewasa. Untuk anak-anak atau orang dewasa, qui signifie pour les enfants et les adultes. Ulangi, qui signifie pour les enfants ou les adultes. Untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa, qui signifie pour les adultes. Perlu vitamin juga. Perlu vitamin juga, qui signifie avez-vous besoin de vitamine aussi? Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Non merci. Dans le dialogue, le pharmacien demande untuk anak-anak atau orang dewasa. Je répète, untuk anak-anak atau orang dewasa. Qui signifie pour les enfants ou les adultes? Et Joko répond untuk anak-anak. Qui signifie pour les enfants? Si vous voulez acheter des médicaments pour les enfants, vous pouvez dire untuk anak-anak. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui est malade ou le médicament est seulement pour les enfants, non pour les adultes. Le mot anak-anak, ou en français les enfants, dans la phrase anak-anak saya sedang sakit, c'est pluriel. Cela veut dire il a plus d'un enfant. Tandis que le mot anak-anak dans la phrase obat ini untuk anak-anak, cela veut dire ce médicament est seulement pour les enfants qui ne sont pas encore matures. L'autre exemple de l'utilisation du mot anak-anak qui est pluriel, c'est anak-anak sedang bermain di taman. Je répète, anak-anak sedang bermain di taman, qui signifie les enfants jouent au parc. Et l'autre exemple de l'utilisation du mot anak-anak qui ne sont pas encore matures, c'est masa anak-anak adalah masa yang indah. Je répète, masa anak-anak adalah masa yang indah, qui signifie l'enfance est un moment merveilleux. Puis, dans le dialogue, Joko dit makasih. Je répète, makasih, c'est-à-dire terima kasih, qui signifie merci. Pour la conversation quotidienne, le mot makasih est utilisé plus souvent que le mot terima kasih. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Ada obat flu?
Ada. Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Untuk orang dewasa.
Perlu vitamin juga?
Enggak deh, makasih.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus en indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain. Chers auditeurs, c'est la chanson de Petra Sihombing, intitulée « Masalahmu, dirimu », en français, ton problème, toi-même. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, sur l'onde cœur de 3,3 de 5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson de Sulawesi du Sud-Est.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la chanson s'intitule Tanah Wolio. La chanson Tanah Wolio vient de la région de Sulawesi du Sud-Est. Créée par Laude Imaduddin, la chanson intitulée Tanah Wolio provient du nom d'un sous-district de la ville de Bau Bau, l'île de Buton Wolio. Tanah Wolio est le surnom de l'île de Buton. Les paroles de la chanson Tanah Wolio parlent de Wolio, une région riche en richesses naturelles. Cette chanson contient également de l'espoir sur le bien-être en développant le potentiel de la région de Wolio. Pas seulement les chanteurs de Sulawesi du Sud-Est qui chantent cette chanson. Il y a quelque temps, un groupe d'élèves du primaire russe ont chanté cette chanson. Chers auditeurs, nous allons immédiatement écouter la chanson intitulée Tanah Wolio, chantée par Rosna Joni. Bonne écoute!
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia.